Voilà, ben je vous souhaite le bonsoir. Et puis, je vous invite à regarder au-dessus de l'écran, pour commencer. Alors, vous voyez, il y a une belle rosace. Puis, il y a quelques semaines, eh bien, il y a le soleil qui piquait juste à travers la rosace et qui m'a inspiré pour le message de ce soir. Le Saint-Esprit, Ruach, est présent dans la vie des croyants. Alors j'utilise parfois des noms hébreux, des noms propres hébreux pour renforcer l'enracinement concret des textes dans leur contexte géographique et historique. Alors après quelques échos, pour aujourd'hui, j'ai renoncé et puis j'ai décidé d'utiliser les noms français usuels. Voilà, donc ici on va voir si ça fonctionne. Magnifique. J'ai organisé mon message en 5 parties. J'ai d'abord parlé du baptême de Jésus, fils bien-aimé de Dieu. Ensuite, m'arrêter sur le fait que nous sommes enfants de Dieu. Puis, nous allons aborder le thème des dons du Saint-Esprit à l'Église. Je vais donner le témoignage de quelques exemples concrets qui ont été vécus. Et puis, pour conclure, je vais vous donner un encouragement. Alors, ma mémoire a relié cette colombe de la rosace à une peinture un peu naïve que j'ai vue dans un autre lieu de culte qui représente le baptême de Jésus. Alors bon, ce n'est pas cette peinture-là, mais c'est une qui ressemblait. Et ce sera donc notre première lecture. Alors, Jean le Baptiste, il ne voulait pas baptiser le Messie. Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au moment même, les cieux s'ouvrirent pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Bien que Jésus soit de nature divine, il assume complètement sa condition humaine. Et ici, il accomplit un acte qui s'inscrit dans l'ère du temps pour ceux qui voulaient vraiment manifester leur accord avec l'Éternel. Or, son cousin Jean, il a bien discerné par le Saint-Esprit qui est Jésus, mais il n'a pas tiré tout de suite les bonnes conclusions. Peut-être qu'il était un petit peu freiné par ses connaissances solides en théologie. Le Saint-Esprit, dans ce passage qu'on vient de lire, affirme qui est vraiment Jésus. Il est bien le Fils bien-aimé. Et dans tout son ministère terrestre, on peut bien observer l'intimité de Jésus avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et dans cet épisode qu'on vient de lire, on voit bien aussi que Jean, il a progressé dans sa façon d'écouter le Saint-Esprit. Alors, on va passer au point suivant. L'apôtre Paul avait fait un apprentissage de fabricant de tentes. Puis, il avait suivi une école biblique, vraisemblablement une des meilleures. Un peu comme s'il avait eu comme prof Jean Calvin, Louis Gaussan, John Alexander et Billy Graham. Et après, dans ses écrits, il affirme notre filiation avec Dieu. Et ici, on est dans sa lettre aux habitants de Rome, au chapitre 12, et il nous dit « L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit » que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, et donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritier de Dieu, héritier avec le Christ, car si nous souffrons en lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Enfant et héritier avec le Messie, quel dessein pour nous autres, humains et pécheurs. Et pourtant, telle est la volonté de Dieu. Un autre Jean écrit dans le même sens que Paul. Jean, fils de Zébédée, comme son frère Jacques d'ailleurs, était pêcheur sur le lac de Galilée. Comme les pêcheurs que j'ai vus cet été sur les quais de la Cotinière. Or certes, les techniques ont évolué, mais il y a toujours des bateaux pour aller au large, des filets, et le tri des poissons avant de les vendre. Dans cette première lettre de Jean, au chapitre 3, il écrit « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous le sommes vraiment. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. » Un petit peu plus loin, toujours dans cette même lettre, « Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment le Père, lui qui fait naître, aiment aussi celui qui est né de Dieu. » Je saute quelques versets. « Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée grâce à son Fils. » Notre nouvelle nature est donc affirmée par Dieu. Il le dit à chaque croyant. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors peut-être que vous vous sentez indigne, moi aussi, mais pourtant c'est le choix de Dieu. Dieu nous aime donc comme ses enfants. Il veut aussi vivre avec chacun de nous la même intimité que l'intimité qu'il a avec Jésus. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur, je ne sais pas si c'était Silas, Barnabas ou quelqu'un de proche, souligne que Jésus nous considère comme ses frères. C'est dans le deuxième chapitre de la lettre aux Hébreux, au verset 11. On va passer au point suivant. Donc, dans notre contexte actuel, Dieu nous offre sa présence. Il veut nous confier des responsabilités et nous équiper par le Saint-Esprit. On lit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, parlons maintenant des expériences spirituelles, frères et sœurs. Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Là, bon, je saute quelques versets. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse. Et à un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir des maladies. L'esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles et à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. À un autre encore, la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. Et à l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre, d'interpréter ces langues. C'est un seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Tous ces dons différents nous sont offerts à nous autres qui formons une partie de l'Église. Et comme le souligne le verset 7, ces dons ont une dimension communautaire. Ils ne sont pas accordés seulement à des spécialistes qui sont au-dessus des autres. Ils ne sont pas réservés à des super chrétiens. Non, c'est pour nous tous. Dans notre communauté locale ou dans notre groupe de maison. Or, ces dons, ils se concrétisent certes à travers des personnes humaines, mais le Saint-Esprit choisit de se révéler parfois à travers un ou une d'entre nous, et parfois à travers un ou une autre. Comme le dit le verset 11 qui est encore affiché derrière vous. Voici le résumé de ces dons. On pourrait lire aussi dans Romains 12 quelques versets avant ceux qu'on vient de lire tout à l'heure, pour compléter la liste, mais mon objectif, ce n'est pas de faire une exégèse détaillée de ces dons. Et je ne vais pas faire non plus de distinction claire entre dons du Saint-Esprit et ministère. Je ne vais pas non plus établir vraiment de frontières claires entre ces dons. On peut d'ailleurs y voir entre eux certains recouvrements. Ah bah tiens, voilà. On voit par exemple que entre les paroles qui viennent de Dieu, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, en tout cas pour moi, j'ai de la peine à faire des différences très claires. Les paroles, elles viennent de Dieu. Et puis, les guérisons ici, c'est souvent aussi des miracles. Donc, on voit qu'on est dans un thème qui est sous la conduite de Dieu, et puis il ne faut pas y mettre trop de théologie. Et puis, quand il y a des paroles en langue qui sont prononcées dans l'Église à haute voix, elles ont bien besoin de quelqu'un qui sait les interpréter pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je vous invite maintenant à passer à du concret avec des expériences personnelles. Des expériences personnelles où j'ai vu que par le Saint-Esprit, on est amené à voir les choses d'en haut, avec le point de vue de Dieu. Alors, première expérience, je vais remonter 45 ou 50 ans en arrière. J'étais un des responsables du groupe de jeunes de la barque au Paqui, donc entre la gare et puis le bord du lac. Et puis, je faisais partie d'une église réformée, tout ce qu'il y a de plus classique, comme celle qui nous accueille ici dans ces murs. Et puis, dans la culture générale, les dons du Saint-Esprit, ça n'a pas vraiment la cote. C'est plutôt considéré comme des événements historiques anciens. Alors nous, on faisait appel régulièrement à des orateurs qui venaient dans nos catacombes, sous la salle de paroisse, pour nous parler d'un sujet. Puis un jour, on avait invité un ancien des Buis, qui était à 200 mètres de chez nous, à venir nous parler des dons du Saint-Esprit. Alors, il nous avait donné tout plein d'explications théologiques très bien faites. Il avait prié pour nous, puis c'était rien passé. Puis le lendemain matin, moi j'étais dans le train pour aller à Lausanne, pour aller à mes cours. J'avais la Bible ouverte devant moi, puis j'étais tout seul dans mon compartiment. Après avoir lu le passage, j'ai commencé à prier. Comme il n'y avait personne autour de moi, j'ai prié à haute voix. Puis je me suis mis à prier en langue tout à coup. Ouh là là, ça m'a foutu les chocottes. Alors je me souviens où c'était, là, c'est... le train passait sous un pont et juste à côté du pont, il y avait encore la maison du garde-barrière avec le petit jardin potager. J'ai vu hier soir en entrant que le pont est toujours là, mais la maison du garde-barrière n'est plus là. Donc, à la place, la forêt, elle a grandi. Voilà. Puis, il s'est passé 2 ans et demi même. Et J'étais responsable d'un camp d'évangélisation dans le midi de la France, près à Aubagne. Donc, on avait terminé notre session de spectacle en plein air, d'entretien avec les gens qui voulaient bien venir nous écouter pour leur raconter les bonnes nouvelles de Jésus qui sauve. Et puis, lors de la dernière soirée, c'était pas très clair. On avait déjà fait un peu les bagages pour partir le lendemain matin. Et puis mon adjoint, qui était André Wenck, il me dit, cette dernière réunion, on pourrait faire une réunion sur les thèmes des dons du Saint-Esprit. Je lui dis, si tu veux, du moment que le programme n'était pas très clair, on se met en cercle dans la salle, là, dans cette petite maison, dans les collines au-dessus d'Aubagne, que nous prêtait un monsieur de la communauté. Et puis pendant après un moment, on commence à prier, puis tout à coup, il y a une des participantes de l'équipe qui se met à pleurer à chaudes larmes. Alors là, un peu la panique. Alors bon, je regarde André, puis je lui dis, tu nous as mis dans la gonfle, maintenant, assume. Puis lui me regarde, puis je comprends le message. C'est toi le chef, tu assumes. Alors là, je me mets à prier à haute voix. Je me sens rempli de la présence de Dieu et je passe à prier en langue à haute voix. J'ai continué. Et j'ai repassé après, toujours à haute voix, en langue française. Puis la participante de l'équipe s'est apaisée. On a terminé la réunion, on est allé se coucher parce que le lendemain matin, il ne fallait pas qu'on parte trop tard pour revenir jusqu'en Suisse. Et puis, avant d'aller se coucher, elle a passé vers moi, elle m'a dit, tu sais, Jean-Marc, ce que tu as prié, c'était exactement la réponse dont j'avais besoin à ma question qui me tarabustait. Or bon, je n'ai pas su quelle était la question, et puis je ne me souvenais pas quelle était la réponse, parce que à ce moment-là, j'avais déjà oublié les paroles en français que j'avais prononcées. Voilà, deuxième expérience, c'est une année après, on avait changé de lieu, de logement. On était chez une dame âgée, elle habitait sa chambre au rez-de-chaussée, juste à côté de la cuisine. Et puis un soir, on avait une réunion de prière, puis elle avait demandé qu'on prie pour elle, parce qu'elle nous avait raconté qu'elle avait des nuits pénibles, puis qu'elle avait des douleurs dans le dos. Lors de cette rencontre, je reçois une pensée, Dieu va guérir Mamoun. Elle s'appelait Marguerite, mais tout le monde l'appelait Mamoun. Elle va guérir Mamoun, mais pas tout de suite, il faut patienter un peu, mais comme signe que cette guérison va bien avoir eu lieu, elle va passer cette prochaine nuit, elle va passer une très bonne nuit. Alors je prends la parole et je transmets. Oui, Mamoun, Dieu va te guérir, mais il faudra patienter, ce ne sera pas tout de suite, puis tu vas recevoir un signe, tout soudain, comme quoi c'est bien vrai. Puis je m'arrête là. À l'autre bout de la table, il y a une membre de l'équipe qui dit « Ah, le signe, ce ne serait pas par hasard qu'elle va passer une bonne nuit ?» Or là, j'ai dû avouer devant tout le monde que j'avais reçu l'information, mais que je n'avais pas osé la transmettre. Voilà. Autre cas concret, ça c'était il y a 3 ans. On venait d'apprendre avec Gabriel que le cousin de Dany était atteint d'un cancer. Et puis on était sur la terrasse chez nous. Puis Dany nous avait envoyé ce message depuis Herisau. Puis là, je me lève, je fais le tour du buisson qui est à côté de la terrasse. Puis je commence à prier. Puis là, j'entends la parole de l'Esprit qui me dit « Mais est-ce que tu me fais confiance ?» Et puis après, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu tout plein de choses intenses avec le Saint-Esprit qui sont produites. Je reviens quelques années plus tard, c'est-à-dire à un ou deux jours près, c'est il y a 12 mois. J'étais chef de bord sur Phoebus, j'avais consulté la météo, j'avais un équipage complet pour le bateau, donc on ne manquait pas de bras et de muscles. Et puis je voyais que j'avais vu que c'était assez menaçant. Quand on est parti, il n'y avait presque pas de vent. On a même dû pagayer un petit peu pour s'éloigner des arbres, pour avoir un petit peu de vent qui vient dans les voiles. Puis après, ben, ça a commencé à venir plus fort. Mais bon, je savais que vers 21h, il devait venir quelque chose. Puis habituellement, quand on fait ces navigations, à 19h, on fait demi-tour, puis on rentre pour revenir à la bouée, et puis remettre le bateau, puis rentrer. Puis là, je regarde, c'était quelqu'un, c'était Nicolas qui était à la barre, et puis je regarde ma montre, 18h55, et là, le Saint-Esprit me dit, maintenant, t'attends pas 19h, c'est maintenant qu'on va. Alors je donne l'ordre, tu l'offres, et puis après, ben, par avirer, on vire, on passe devant Versoix, le vent commence un petit peu à souffler plus fort, mais il changeait un peu de direction, c'était inquiétant. Et puis en arrivant devant la pointe de Gentau, eh bien, on entendait le tonnerre sur les voirons, puis des équipières qui me font « Oh ouais, tu vois ça, c'est terrible hein, !» ça me fait peur. J'ai dit, ah non, ça ne me fait pas peur. Mais regarde le nuage noir entre le môle et le salève. Alors, ça me fait peur. Et puis, j'ai la pensée, c'est moi qui ai pris la barre à ce moment-là. Il faut rentrer tout de suite et puis réussir du premier coup la prise de bouée. Alors, bon, ben, je longe au plus près le mouillage où il y avait tous les bateaux qui étaient alignés. Puis nous, on était de la dernière au bout. Je donne un coup de barre, tac, tac. J'avais donné mes instructions à l'équipage. J'avais deux hommes costauds qui étaient à l'avant pour prendre la bouée. On prend la bouée avec une vitesse extraordinaire. On a descendu les voies, tout arrangé, etc. Je suis encore allé aider devant à mettre les câbles en tête à la pointe du bateau pour pouvoir faire l'assurage définitif. Et là, on s'est pris une de ces secouées magistral, ce qui fait qu'on a dû se mettre à l'abri sous la toile qui est posée sur le bateau. On avait essayé avec Nicolas de passer sur l'annexe pour ramener du monde au bord, mais ça secouait trop. Et on a attendu 2h30. Alors on a pique-niqué, on a chanté des chansons de marin, bref. Mais pour vous montrer l'importance d'obéir, c'est que les 5 minutes de tourner plus vite que d'habitude. Donc j'ai gagné 5 minutes à l'aller, 5 minutes au retour, ça fait 10 minutes. C'est juste le temps qu'il nous a fallu pour prendre la bouée et ranger le bateau avant de prendre la châtaigne. Donc l'importance, quand l'esprit parle, de bien obéir et de ne pas tergiverser. On en arrive à la conclusion. Nous reprenons la lettre aux Hébreux. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Et l'auteur répète cette phrase 3 versets plus loin. Puis si on continue au chapitre 4, encore il répète cette phrase. S'il répète 3 fois en 2 pages, cela doit être bien important. Et j'avoue que, en préparant ce message, ça m'a bien remué. Ça m'a remis en question, puis ça m'a dit, ouais, faut bien apprendre à obéir, puis pas procrastiner. Quand tu reçois quelque chose de l'esprit, il faut y aller. Alors, je vais vous encourager. Vous, tout ce qui est ici, à être plus docile que je l'ai été par le passé au niveau de l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il faut bien vous rappeler qu'il se révèle pour notre bien et pour le bien de ceux qui sont près de nous. Notre famille, nos voisins, nos collègues, nos frères et sœurs en Christ, que sais-je, nos copains du club de bridge, nos amis de l'équipe de la vigne, bref, il nous parle pour le bien des autres. Alors je vous encourage à vous exercer dans le cadre de vos groupes de maison, là où il y a des proches qui peuvent vous encourager, vous aider, vous remettre un peu sur la bonne voie, et puis pas vous inquiéter si dans la marche avec le Saint-Esprit, ça marche, c'est pas tout de suite performant. Je vais prendre un exemple concret. Si quelqu'un ne sait pas nager et prend un cours de natation, il est un peu utopique de penser que le lendemain, il va être le recordman du monde du 100 mètres nage libre. Eh bien, avec les dons du Saint-Esprit, il faut accepter qu'on apprenne aussi petit à petit. Voilà, j'en reste là, et puis vous dire encore que nous vivons dans des temps troublés. Et puis, si on regarde un petit peu les perspectives d'avenir, il n'y a rien qui indique que ça va aller un peu mieux demain. Alors, ce serait vraiment bête de nous limiter aux belles compétences humaines que nous avons reçues de Dieu à notre naissance, et puis de négliger la boîte à outils offerte par le Saint-Esprit. Et puis, un petit clin d'œil, j'ai pas dit à Daniel à l'avance quel était le thème de mon message. Les deux premiers chants étaient sur le thème du Saint-Esprit. Donc, je pense que c'est un signe pour nous dire qu'on doit vraiment être attentif à ces dons et à les pratiquer. Que le Saint-Esprit soit répandu sur vous et vous bénisse. Amen.